Donc, je vais faire en fait une forme de présentation du contexte au niveau du bassin de la Vienne. Alors, il va y avoir plusieurs types de présentation à l'intérieur sur trois niveaux. Il m'a été demandé donc de resituer le contexte en termes de définition, puisque beaucoup de personnes ont leur propre définition de l'étang et il s'agit avant tout de se retrouver derrière une ou plusieurs définitions qui soient vraiment prouvées scientifiquement. Donc la première partie sera axée là-dessus. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, ce n'est pas le but ici, mais donner simplement les grandes lignes de pensée. La deuxième partie sera sur la localisation des étangs, que ce soit à l'échelle française du bassin Loire-Bretagne et ensuite du bassin de la Vienne, l'analyse de ces localisations, et la dernière partie sera axé uniquement sur la partie Limousin. Alors, pour la raison suivante, tout simplement, j'ai réalisé une thèse sur le Limousin il y a 5 ans de cela, et donc je suis en mesure de vous présenter des travaux relativement avancés sur ce point-là, que ce soit au niveau localisation, fonctionnement, historique, sociologie. Donc je vous ferai une petite présentation là-dessus, mais rapide. Donc dans un premier temps, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'un étang ? Alors en fait, quand on fait une petite étude de l'épistémologie de l'étang, jusqu'au XVIe siècle, il n'y a aucune définition de l'étang. Le constat est le suivant, c'est que ça semble tellement logique aux personnes qu'il n'est même pas utile de le définir. Ensuite, on voit qu'à partir du XVIe siècle, on se sent obligé de le définir. Mais, dans un premier temps, on va déjà éliminer toute une partie des masses d'eau, puisque le premier critère de définition d'un étang sera la chaussée. Donc de facto, tout plan d'eau naturel n'est pas un étang. Ça, c'est la version française. Dans d'autres États, ce n'est absolument pas le cas. Mais dès le XVIe siècle, on élimine tout ceci, c'est-à-dire que tous les étangs littoraux, étangs de Thau, étangs de Biscarrosse, que vous voulez, ne sont donc pas des étangs au sens français. Petit à petit, il y a une fonction qui va se greffer sur cette définition. En premier, la pisciculture, puis un petit peu plus tard, notamment l'agriculture, la chasse, et aussi l'exploitation hydraulique. Alors cette exploitation hydraulique est très importante pour le Limousin, puisque c'est elle qui est à l'origine de la poussée des étangs, notamment entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors, depuis à peu près un siècle, on note qu'en fait, il y a une spécialisation de la définition par plusieurs types de personnes et qu'il est assez difficile de mettre d'accord tout le monde. Chacun fait sa petite définition dans son coin. Les principales personnes là-dedans sont les juristes, les biologistes, les historiens et les géographes. Le seul problème, c'est que chacun a une optique et qu'il est assez difficile de mettre tout le monde d'accord. Donc, je vais faire dans une diapositive suivante des critères sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui. Et à partir de cela, il n'existe toujours pas de définition, ce qui est encore valable dans la loi, qui est marqué ici. L'étang n'est pas défini dans la loi aujourd'hui. La seule définition qui fait référence en France est celle qui est présentée par le Sandre et qui date de 2005. Un étang est un plan d'eau d'origine naturelle ou artificielle de faible profondeur, sans stratification thermique stable, il est alimenté essentiellement par son bassin fluvial. Cette définition a un énorme avantage, c'est que tout rentre dedans. Elle a un énorme inconvénient, c'est que tout rentre dedans. Voilà. Alors, l'étang pour les chercheurs, il y a deux optiques qui sont prises actuellement pour définir un étang. La première, c'est s'appuyer sur la chaussée, notamment le mécanisme de vidange. Alors, étymologiquement, on s'appuie sur quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'étant en français, descend de deux termes, estanqué et stagnum. Si on s'appuie sur estanqué, ça signifie vider, mais non pas vidanger, mais donc il y a effectivement une mainmise de l'homme. Seulement, si on applique ce système-là, un barrage de 100 mètres de haut de type EDF est un étang, puisqu'on peut le vider. Il y a donc une limite sur cette définition-là. L'autre vision, c'est de s'appuyer sur l'autre étymologie, stagnum, eau stagnante. Alors aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas une eau stagnante qui ne bouge pas, c'est ce qu'on appelle une eau dormante, c'est-à-dire qu'elle est agitée par des courants qui peuvent être dans n'importe quel sens, de haut en bas, verticaux, horizontaux, ce que l'on veut. Et par l'intermédiaire de ces critères-là, on va pouvoir travailler sur les deux petits schémas que je vous ai mis à gauche, qui sont issus des travaux de mon collègue Laurent Touchard. Alors je vais essayer de les expliquer simplement. On a essayé de savoir ce qui différenciait une mare d'un étang et d'un lac, des critères qui pouvaient être explicatifs. Le premier, c'est la notion de cycle. Un lac a un cycle qui est toujours le même d'une année sur une autre. C'est le principe du cycle annuel que vous avez là. Une mare, en revanche, a un cycle diurne qui est proportionnellement toujours le même tout au long de l'année. À l'inverse, ce qui fait la caractéristique d'un étang, c'est que parfois, il a un cycle de type lac, parfois un cycle de type mare, et voire parfois un cycle de type cours d'eau. Et donc il est beaucoup plus difficile à comprendre. C'est donc cette irrégularité qui caractérise l'étang. La deuxième chose, c'est l'inertie, qui est liée en fait au volume d'eau qui est contenu à l'intérieur. Un lac a un tel volume qu'il domine tout son bassin versant. En revanche, l'étang, qui a une superficie et une profondeur moindre, est dépendant de son bassin versant. Et c'est en cela qu'il est intéressant de travailler sur l'étang et son lien avec le cours d'eau. Parce que l'étang est dépendant du cours d'eau et le cours d'eau est dépendant de l'étang. Ce qui n'est pas le cas pour le lac. Donc voilà pour les grandes idées. Si on retient les idées importantes, elles sont à gauche ici. L'étang est une eau dormante, c'est une eau continentale. Il présente des traits fluviaux et lacustres. Et ça, ses caractéristiques surfaciques sont intermédiaires entre la mare et le lac. Alors internationalement, je vous ai présenté les limites qui ont été données, qui fluctuent selon notamment les zones climatiques. Alors de manière générale, pour la profondeur la plus faible, c'est 0,7 à 1,2 m, c'est-à-dire qu'en dessous de cette profondeur, on n'est pas sur un étang. De facto, on est sur une mare. Et la profondeur maximale est entre 5 et 8 mètres. Et donc, au-delà de cette profondeur, de facto, on est sur un lac. Alors, pourquoi ces césures? C'est que tout simplement, au niveau de 0,7-0,8 mètres et au niveau de 6-7 mètres, la qualité physico-chimique de l'eau change à l'intérieur de l'étang. On n'a donc pas le même rythme, ce qui peut nous expliquer donc des fonctionnements différents de la mare et du lac. Alors, pour la superficie, vous pouvez le voir exactement, c'est beaucoup moins fiable, puisque tout à l'heure, il vous a été présenté la limite de 1000 mètres carrés, c'est exact, c'est utilisé par certaines personnes. Donc nous, on utilise 0,1 hectare, mais on considère aussi qu'un étang, pour certaines personnes, et c'est notamment le cas des Australiens, ne commence qu'à 200 hectares. Donc, bon, entre 0,1 hectare et 200 hectares, on ne parle pas de la même chose. Alors, au long des résultats que je vais vous présenter, sur la cartographie qui va suivre, je ne vais vous présenter que les étangs qui sont entre 0,1 et 100 hectares, 100 hectares étant le maximum. Et pour tout ce qui est sur le Limousin, puisque j'ai pu en voir personnellement 12 000, j'ai estimé la profondeur de chacun, et comme c'est la profondeur qui est l'élément le plus pertinent pour nous, la thématique des étangs est traitée par l'intermédiaire de la profondeur et non pas de la superficie. Mais à l'échelle de la France, c'est impossible à faire dans l'immédiat. Alors, ça a juste quelques... Ces critères, notamment ces critères de profondeur, ont des impacts en termes d'impact technique. Notamment, ça nous a permis de travailler sur la température, sur l'oxymétrie, sur la sédimentation. Je ne vous ai présenté que quelques résultats ici sur la température. L'impact d'un étang qui est équipé d'un moine, c'est de 1 degré à l'année. Et l'impact d'un étang qui est équipé uniquement d'un déversoir de surface, c'est 2 degrés à l'année. Ça ne veut pas dire que c'est 2 degrés toute l'année ou 1 degré toute l'année, mais ramené à l'année, c'est ça. Ces chiffres, c'est 6 millions de mesures qui sont à la minute. Donc ce ne sont pas des mesures qui sont prises comme ceci. Alors, en termes de localisation, voici donc l'état des étangs aujourd'hui en France. Je vous ai mis les chiffres à côté. Vous avez 250 000 étangs en France. Les chiffres les plus fiables aujourd'hui, c'était 100 000. Il se trouve que ces travaux, je les ai terminés il y a quelques mois. Vous avez la cartographie. Alors, sur cette cartographie, j'ai rajouté les quelques lacs français. Donc, ne soyez pas surpris. Vous avez, alors si je le fais apparaître, vous avez bien le lac Léman qui est là. C'est pas un étang, hein, je précise. Mais il y a moins de 300 lacs en France si on applique cette logique de 100 hectares. Donc, il y a 250 000 étangs. Sur ces 250 000 étangs, l'intérêt pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, notamment, c'est que la moitié sont à l'intérieur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, soit 123 000. La superficie totale, c'est plus de 260 000 hectares. Ça commence à faire 2600 km², c'est pas mal. Et en termes, je vous ai mis trois autres points. La densité, la stagnicité, la taille moyenne. Alors la stagnicité, j'explique ce que c'est. La stagnicité, c'est la superficie en eau d'un territoire. C'est-à-dire que si le total de la superficie en eau rapportée au territoire s'exprime en pourcentage. On a la même chose pour les lacs, ça s'appelle la limnicité. Donc ça, la limnicité est valable un peu partout dans le monde. Il se trouve qu'en France, l'intérêt n'est pas de travailler sur les lacs, mais sur les étangs, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et donc, on a utilisé le terme de stagnicité. Cette stagnicité, à titre de comparaison pour ceux qui travaillent là-dessus, donc elle est de 0,48% en France. Elle est, par exemple, de 0,65% en République tchèque, qui est une des zones piscicoles principales d'Europe centrale. Mais, jusqu'à cette cartographie, la stagnicité française était estimée à 0,09%. Donc forcément, si on sous-estime le nombre d'étangs et sa place prise, en termes de gestion, ça pose un problème. Alors, les chiffres donc sont présentés ici. Pour la France, vous allez avoir la même chose pour le bassin de la Vienne, ce qui permettra de voir que la Vienne est surdotée en étang. Donc, je vous ai dit, à l'intérieur de l'agence de l'eau du périmètre géré par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est environ 123 000 étangs. Et sur le territoire de l'EPBV, vous avez près de 19 000 étangs. Alors, ces 19 000 étangs représentent 210 km², et on voit qu'en termes de densité de stagnicité, s'il y a besoin, je reviens sur la précédente, on voit que, et en densité et en stagnicité, le bassin de la Vienne, c'est le double de la moyenne française. En revanche, la taille moyenne est quasiment identique, c'est-à-dire que, certes, on a deux fois plus d'étangs, mais ils sont sous-entendus beaucoup plus petits. En rentrant un petit peu plus dans le détail, alors pour ces cartographies, il va y avoir deux diapositives comme ça. La couleur rouge représente des bassins qui ont une moyenne supérieure à la moyenne du bassin de la Vienne et aussi supérieure à la moyenne française. Ceux qui sont en orange ont une moyenne qui est supérieure à la moyenne française mais inférieure à celle du bassin de la Vienne. Enfin, ceux qui sont en jaune clair sont ceux qui ont une moyenne inférieure à la fois à la moyenne française et à la fois à la moyenne du bassin de la Vienne. Si on classe par grand bassin versant, on voit très bien que c'est le bassin amont de la Vienne et le bassin de la Creuse, qui sont le plus dotés en étang en termes de densité. En revanche, la Vienne avale les moins, ainsi que le Clain. Le Clain étant ici. Si on rentre plus dans le détail, on voit que c'est la partie centrale, la partie intermédiaire des bassins, qui est la plus dotée en étang. La zone qui est ici représente la Brenne, ce qui est... Elle est surdotée, mais ça, c'est à la limite facilement compréhensible. En revanche, pour tout le territoire du Limousin, en partie Haute-Vienne ou en partie Charente, vous avez une très très forte concentration qui apparaît dans ce secteur-là. Au niveau de la stagnicité, une très légère différence. Le bassin de la Vienne, en tant que tel, Vienne amont, apparaît moindre. C'est seulement le bassin de la Creuse qui est vraiment prédominant en France. Chose que l'on voit dans la deuxième cartographie, où on voit très bien ressortir la Brenne, ici, et quelques bassins à l'intérieur des monts de Blon et des monts d'Ambazac. Notamment le bassin de la Glane qui est ici et le bassin du Vincou, qui sont largement au-dessus de la moyenne française, deux fois plus. Bien. Une fois qu'on a dressé donc, ce constat numérique, on peut s'intéresser aux caractéristiques. Alors ici, donc, ça ne va être que sur le territoire du Limousin, y compris le territoire qui n'est pas dans le bassin de la Vienne, je le précise. Donc ici, vous avez une représentation du nombre d'étangs et de la superficie qu'ils ont occupée depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où on a des sources qui peuvent être utilisables. Avant, on a quelques sources locales, mais qui ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble du Limousin. Donc on voit très bien, en rouge, que le nombre d'étangs a été relativement stable, même si ça a bougé au cours du fin XVIIIe jusqu'au milieu du XXe siècle, mais on note une poussée extraordinaire depuis les années 1960. Alors aujourd'hui, en fonction de la définition que l'on a des étangs, moi, j'en compte 17 000 en Limousin, et pas 13 500, mais ça peut tout à fait être 13 500 selon une autre définition. En termes de superficie, en revanche, on se rend bien compte que la superficie, elle, a fluctué de manière importante. Alors, pourquoi sur cet épisode-là? Tout simplement, c'est en lien avec l'épisode révolutionnaire et l'obligation de détruire un certain nombre d'étangs ou de limiter leur superficie. Donc, ça se voit très bien au niveau du Limousin. En revanche, le Limousin, par rapport à d'autres régions, a retrouvé assez facilement ses étangs parce qu'on en avait besoin en termes de force motrice et non pas en tant que pisciculture. Or, les moulins devaient être alimentés, donc on a remis en eau les étangs assez rapidement, une échéance de 4 à 5 ans. On voit qu'il y a à nouveau un maximum au milieu du 19e siècle et depuis le milieu du 19e siècle, ça s'est écroulé. On note malgré tout depuis les années 60 une remontée, mais cette remontée est beaucoup moins importante que le nombre d'étangs. Aujourd'hui, à l'échelle du Limousin, un étang ne fait que 0,5 hectares en moyenne. C'est-à-dire que la taille moyenne des étangs a baissé de manière drastique en Limousin. À partir du moment où votre ligne bleue passe en dessous de la ligne rouge, ça veut dire que votre étang moyen fait moins d'un hectare. Et on localise ça au milieu des années 80 à peu près. Alors qu'est-ce que ça a donné en termes de répartition ? Alors ici, quatre présentations. Une qui est issue de la carte du traitement de la carte de Cassini, même si elle n'est pas très fiable, ça peut donner une idée. On voit très bien que la majeure partie des étangs se situe en marche, et notamment en basse marche, rebord nord des monts de Blanc, ainsi que dans les monts de Chalut, le pays aridien. Le reste du territoire est pratiquement dépourvu d'étangs. Si on s'appuie sur une étude qui a été faite au milieu du XXe siècle par Aimé Perpillou, on retrouve, malgré tout, les mêmes zones qui apparaissent. On retrouve les monts de Chalut qui sont ici, la basse marche et une partie de la haute marche et des Combrailles. Mais, en fonction de la distinction forte, moyenne, faible, beaucoup de communes, puisque là c'est un traitement par commune du territoire limousin, sont complètement dépourvues d'étangs en 1940. Là où ça commence à changer, c'est quand on s'intéresse simplement en traitant les cartigènes du milieu des années 80. Alors certes, elles n'ont pas toutes la même année, mais elles ont toutes été faites sur une échelle de 10 ans. Là, on voit qu'il y a un changement. C'est uniquement la façade ouest du Limousin qui devient concentrée en étang, dont une grande partie dépend du bassin de la Vienne. Là, on a vraiment une énorme concentration. À l'inverse, la haute marche commence à disparaître, excepté la périphérie de Montluçon. Si on poursuit encore, en 2005, le renforcement du territoire autour de la ville de Limoges qui se situe ici est très net. La basse marche passe secondaire ainsi que la haute marche. Néanmoins, à chaque fois, j'ai fait trois catégories, forte, moyenne, faible. Si je repars de la carte de 1980 en utilisant les mêmes chiffres, voici ce que ça donne. Ici, vous avez donc la même carte que tout à l'heure et j'ai utilisé les mêmes chiffres. Certes, on retrouve toujours notre zone autour de Limoges qui est fortement dotée, mais en fait, tout le Limousin a vu son nombre d'étangs exploser. Seulement, il y a eu une très très forte concentration dans un territoire d'un rayon de 50 km autour de Limoges, en lien avec le style de vie et les voies de communication, a priori. J'attire votre attention malgré tout sur une chose, la catégorie qui est notée faible, pour certaines communes, c'est quand même supérieur à la moyenne nationale. Alors, où sont situés ces étangs? Alors, majoritairement, ils sont situés sur les têtes de bassin. C'est le tableau qui est juste en dessous qui va vous le montrer. Alors, je me suis appuyé sur une classification qui s'appelle la classification de Strahler, l'ordination de Strahler, qui est censée classer les cours d'eau. Vous avez un petit schéma ici qui va vous l'expliquer. Lorsqu'un cours d'eau n'est pas permanent, on considère que le rang est un rang zéro. Donc, ça veut dire que l'étang, s'il est situé à cet endroit-là, va être alimenté soit par une source qui est temporaire, soit par le ruissellement dans des champs, par exemple. Dès que le cours d'eau devient permanent, on dit que c'est un rang 1. Lorsque deux cours d'eau de rang 1 se rencontrent, c'est un cours d'eau de rang 2, et ainsi de suite. Donc, on a essayé de voir où se localiser ces étangs sur le réseau hydrographique. Donc, à l'échelle du Limousin, c'est cette colonne-là, on voit très bien que plus de 70% des étangs se situent soit sur un rang 0, soit sur un rang 1. Donc, ce sont ceux-ci qui se situent donc parfois même avant la source, et qui influent donc nécessairement sur le cours d'eau. J'ai rajouté ce petit point avec les étangs qui sont équipés d'un moine. On voit que les étangs qui sont équipés d'un moine ne sont pas localisés nécessairement au même endroit que ceux qui sont équipés avec un déversoir de surface. Ils sont majoritairement sur un cours d'eau qui est permanent, ce qui à la limite est plutôt logique si on veut équiper son étang d'un moine. Alors cette classification de Strahler a un impact en termes de loi, puisque ça fait un certain temps que je travaille là-dessus. Il y a une incohérence en termes de la loi française, en l'occurrence de la loi sur l'eau de 2006 et des milieux aquatiques, et la DCE, en termes de justement ce que l'on considère comme cours d'eau. Si on prend l'étang qui est en 1, il n'y a pas d'écoulement en sortie, donc il n'y a pas de cours d'eau au titre de la loi française ou au titre de la loi européenne, il n'est donc pas soumis à la loi sur les cours d'eau, hormis pour la vidange, puisqu'il va y avoir, lors de la vidange, nécessairement une arrivée d'eau au sein d'un cours d'eau un petit peu plus en aval. Là où il y a un problème d'ordre législatif, c'est pour le plan d'eau qui est noté 2 ici. La loi française ne donne pas une définition stricte de ce qu'est un cours d'eau. C'est à l'application de la personne qui est amenée à gérer cela. À partir du moment où on peut voir une vie aquatique, un chenal aquatique, là, on peut considérer qu'il y a présence de cours d'eau même sans eau. C'est une possibilité, c'est une libre interprétation. En revanche, au niveau de la DCE, ça s'appuie sur la classification de Strahler. Et la classification de Strahler dit clairement qu'un cours d'eau est un rang 1 minimum, c'est-à-dire que ça coule en permanence et sur une période de 30 ans, comme en climatologie. Donc ce sont pour ces étangs-là qu'il y a un problème législatif. S'il n'y a pas permanence du cours d'eau en aval, selon la loi française, ils vont être classés sur cours d'eau. Selon la loi européenne, ils ne le seront pas. En revanche, quand on a la certitude de l'écoulement permanent, ce qui est le cas du plan d'eau noté 3, aussi bien la loi française que la loi européenne disent qu'il est sur cours d'eau. Et donc la législation sur les cours d'eau s'applique à l'étang. Alors ces étangs, pourquoi faire? La carte qui se situe en bas à gauche vous présente la catégorie majoritaire à l'échelle d'une commune. J'ai fait deux distinctions. Soit on prend de l'eau dans l'étang, par exemple pour l'irrigation, pour l'élevage, même si ce ne sont pas des tonnes et des tonnes d'eau, mais c'est une activité de prélèvement, soit l'eau ne sert que de support d'activité, pêche, chasse, baignade, etc. Donc j'ai fait cette distinction, prélèvement seul, support seul, et puis un certain nombre d'étangs qui ont les deux. En fonction de ça, on voit très bien que, au niveau du Limousin, toute la partie centrale, qui est notée en rouge, est essentiellement doté pour les étangs de loisirs, que ce soit du loisir pêche, du loisir chasse, même si c'est minoritaire en Limousin, il y en a. C'est avant tout pour les loisirs. Les périphéries qui sont notées en bleu sont majoritairement loisirs, mais on note des activités de prélèvement qui apparaissent. Enfin, seules les couleurs vertes et jaunes montrent une majorité d'irrigation notamment, ce qui est valable pour le sud de la Corrèze et à un degré moindre pour les Combrailles étant ici. On voit très bien, par exemple, que 86% des étangs du Limousin sont destinés à une activité de support majoritairement de loisirs aujourd'hui, loisirs individuels. Alors, les raisons de ces installations, donc sur les têtes de bassin, pour des loisirs individuels. Eh bien, si on s'est installé sur les têtes de bassin, c'est avant tout parce qu'il y a eu une déprise agricole, et donc des terrains qui sont restés libres. Parfois aussi des terrains qui sont restés dans la famille, et lors des héritages, on ne savait pas quoi en faire. Alors, une piste, mais qui reste à prouver, c'est qu'on a noté qu'il y avait beaucoup moins d'étangs sur la montagne Limousine que par exemple sur les monts Chalut ou les monts d'Ambazac. Alors, il y a la proximité de Limoges qui peut expliquer ça, mais pas seulement. Ça peut aussi venir de l'ancienneté de la déprise rurale. Sur la montagne Limousine, elle est beaucoup plus ancienne et on a eu le temps d'avoir des politiques de reboisement. En revanche, quand la déprise rurale s'est faite beaucoup plus tardivement, il n'y avait plus d'incitation financière pour le reboisement. Du coup, on s'est tourné vers une autre ressource, l'étang en étant une. C'est une piste, mais ça reste à prouver. Alors, parmi les propriétaires, on note quand même qu'il y a une forte proportion de retraités, et ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, notamment lors du décès de ces personnes en termes de succession. Et c'est là que, notamment, l'établissement public du bassin de la Vienne peut intervenir, c'est-à-dire que la personne qui en était propriétaire avait une utilité de son étang, par contre, la personne qui succède derrière ne voit pas forcément l'étang comme une utilité. Et c'est là souvent qu'on en obtient des problèmes de gestion des étangs. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, heureusement, mais c'est parfois à ce moment-là qu'il peut y avoir la notion d'effacement, puisque cette notion d'effacement va être énoncée aujourd'hui. Non pas que je la partage en tant que scientifique, mais ça peut être une solution au cas par cas. On voit très bien que dans l'ouvrage qui a été édité en 1999 par l'ITAVI, donc les auteurs étaient Le Quéré et Marcel, ils ont dressé pour toute la France les caractéristiques des propriétaires d'étangs. On voit qu'il y a une très grande distinction, notamment entre la Haute-Vienne et la Corrèze. 73% des propriétaires en Haute-Vienne sont des retraités, mais seulement 45% en Corrèze. Or, on a noté que la pisciculture, par exemple, était beaucoup plus développée en Corrèze qu'en Haute-Vienne. Donc, une activité plus dynamique en Corrèze, par contre, une activité plus de loisirs à proximité de la maison ou sur une propriété sur laquelle on se rend de temps en temps en Haute-Vienne. La Creuse étant intermédiaire là-dedans. Et pour conclure, donc, au niveau du contexte social, donc on voit très bien qu'au cours des 50 dernières années, les étangs se sont créés sur les têtes de bassin, majoritairement sur des loisirs, mais ils posent un petit problème parce qu'ils sont créés sur des versants et donc ils ont des grandes profondeurs pour des toutes petites superficies. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous souhaitez avoir de plus amples informations, je vous ai mis deux choses. Premièrement, nous organisons un colloque dans 3 mois à Châteauroux sur les étangs, où notamment vis-à-vis de la DCE, nous aurons l'apport d'Estoniens et de Roumains qui sont soumis à la DCE au même titre que la France. Et puis l'apparition le mois prochain d'un ouvrage sur les étangs. Voilà. Je vous remercie.